Alors, comment entendre la voix de Jésus? Quatrième partie, Jean 10, 22 à 30. Donc, ça fait déjà quelques semaines qu'on est en train de regarder ce sujet et je prends le temps de vraiment le développer parce qu'il est tellement important, tellement lié à notre quotidien, à chacun d'entre nous et en plus, il est vraiment lié à notre vision qu'on a comme Église qui est d'entrer en relation avec Jésus pour grandir en lui, partager la foi et servir. Donc, c'est vraiment lié à cette relation intime avec Jésus. Parce que lorsqu'on parle d'entendre la voix de Jésus, on parle de relation, d'une relation personnelle avec lui, d'une relation qui est vivante, d'une relation qui est dynamique, d'une relation qui est comme une relation où il y a de la communication. Et dans toute bonne relation, mais la communication, ça coule. Hein? On se parle. Quand on arrête de se parler, dans n'importe quelle relation, que ce soit au niveau familial, conjugal ou autre, c'est là où il y a de la difficulté et c'est là aussi où tout commence à aller mal parce qu'il manque de communication. Et là, on interprète mal, on perçoit mal, on tire des mauvaises conclusions et ainsi de suite. Donc, dans notre relation avec le Seigneur, c'est très important cet aspect d'entendre la voix de Jésus. Et là, un bref résumé, parce que c'est sûr que ceux qui n'ont pas entendu les trois premiers messages, ils sont disponibles sur le site web de l'Église et je vous invite à aller consulter le site pour justement avoir toute la série. Il va y avoir une cinquième partie, les dernières, la prochaine fois quand que j'aurai l'occasion de le faire. Pas en mai, le premier dimanche de mai, pas dimanche prochain, mais l'autre après, c'est la fête des mères, donc j'ai quelque chose de spécial pour la fête des mères. Mais après ça, la prochaine fois que je vais enseigner, on va voir la cinquième partie. Voilà, entendre sa voix, c'est une capacité spirituelle venant de Dieu et une disposition intérieure venant du cœur qui nous permettent d'entrer en relation avec Jésus, qui est le bon berger, pour grandir en lui, partager la foi et servir. Vous voyez comment notre vision ici est incorporée dans cette définition. Le véritable enjeu lorsqu'on parle d'entendre sa voix, c'est de saisir et comprendre le vrai sens des Écritures. Donc, c'est pas simplement de lire la parole de Dieu, d'être exposé à la parole de Dieu ou d'entendre Dieu parler, mais c'est vraiment cet aspect très important qui fait la différence dans la vie de quelqu'un lorsque cette personne saisit et comprend le sens des Écritures, le vrai sens des Écritures. Et c'est quoi ce sens-là? C'est pas le sens historique. C'est pas le sens moral. C'est le sens lié à la venue de Jésus. Donc, le sens rédempteur et christologique, centré sur la personne de Christ et sur le plan de rédemption que Dieu avait pour chacun d'entre nous. Lorsque, par la grâce de Dieu, quelqu'un saisit ce sens-là, c'est là que le miracle se produit dans la vie de cette personne. Et si vous êtes ici ce matin et que vous confessez le nom de Jésus comme votre sauveur personnel, c'est parce que vous avez compris ce sens rédempteur et christologique pour votre vie personnelle. C'est comme si ce fait historique de la venue de Jésus sur terre, le fait qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité le troisième jour qu'on vient de fêter, il n'y a pas si longtemps à Pâques, eh bien là, ce sens-là de cet événement historique, ce sens personnel et approprié à vous, vous l'avez saisi par la foi. Et Christ est devenu votre sauveur personnel. Et là, vous avez embarqué sur ce chemin de la vie chrétienne ou de cette relation personnelle avec Christ. Alors, lorsqu'on éprouve des difficultés à entendre sa voix, on éprouve des difficultés au cœur même de notre expérience chrétienne. Et ça, c'est très important de saisir ça. Autrement dit, la vie chrétienne, ça touche à une relation avec Dieu. Et comme je disais tantôt, s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation. Et donc, si j'ai de la difficulté à entendre sa voix, si j'ai de la difficulté, autrement dit, d'être en relation avec lui, que cette relation-là, elle est vivante et dynamique et régulière, ben, ça l'affecte toute mon expérience chrétienne. Rien d'autre ne peut influencer autant notre réalité présente, notre parcours de vie ou notre destinée éternelle. Rien. Absolument rien. Et là, on va aller au niveau des moyens. On en a vu quatre présentement, et je vais faire un résumé court. Premièrement, on a vu la Bible qui est le moyen par excellence est le seul qui puisse servir de fondement solide, dites-le, normatif, autoritaire et réfutable en matière de et de doctrine. Donc, c'est un moyen à part, c'est un moyen exceptionnel. Et c'est pour ça que je l'ai mis aussi en premier, parce que c'est celui qui est le plus important de toutes les neuf. Il y en a neuf moyens en tout. Et le deuxième qu'on a vu, c'est le Saint-Esprit. C'est pas qu'il est moins important que la Bible, mais le Saint-Esprit, il joue un autre rôle. Il joue pas le rôle que la Bible joue. Et c'est pour ça que j'essaye de voir avec vous, de vous donner un peu la distinction que chacun de ces moyens-là a. C'est quoi le rôle que le Saint-Esprit joue? Alors, le moyen qui est le plus puissant pour nous ouvrir les yeux et illuminer notre intelligence, afin de, vous vous souvenez, on a parlé de saisir et comprendre, afin de comprendre le sens rédempteur et christologique de la venue de Jésus sur terre, et ainsi recevoir la grâce de Dieu pour le pardon de nos péchés, la vie éternelle et la marche chrétienne. Donc, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous ouvrir les yeux, de nous emmener justement à saisir et à comprendre. Et c'est pour ça que là, son rôle aussi est très important. Parce que si le Saint-Esprit n'était pas là, bien, aucun de nous, on serait en mesure de comprendre pourquoi Jésus est venu. Ça serait comme mystérieux et ça resterait comme incompréhensible. On ne pourrait pas venir à Christ. On ne pourrait pas recevoir par la foi son pardon. Mais le Saint-Esprit, c'est son rôle. Troisièmement, le Fils de Dieu, Jésus. Alors lui, c'est quoi son rôle à lui? C'est pas qu'il est moins important que la Bible, et c'est pas qu'il est moins important que le Saint-Esprit, mais vous allez voir, il n'a pas le même rôle. Lui, c'est le moyen le plus clair et le plus entier. Et dans ce sens-là, il est supérieur, c'est ce qu'on a vu dans Hébreux, par lequel Dieu lui-même s'est révélé aux hommes. Grâce à Jésus, on a l'image parfaite de Dieu. On n'a pas besoin d'essayer de comprendre qui est Dieu. En Jésus, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, qui nous parle de Jésus? Qui nous révèle qui est Jésus? Et naturellement, c'est la Bible. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il allait venir faire? C'est qu'il allait nous conduire à Jésus. Il allait nous emmener à comprendre qui est Jésus et à voir qu'on a besoin de Jésus dans notre vie pour le pardon de nos péchés. C'est le rôle que le Saint-Esprit a et qu'il veut jouer encore aujourd'hui. Et finalement, on a vu la prière. Et la prière, c'est le moyen le plus simple, le plus accessible et le plus efficace par lequel l'homme peut rencontrer son Créateur pour lui demander quoi? Assistance, grâce, intervention et direction. Autrement dit, la prière, là, ça, c'est n'importe qui. Quelqu'un n'a même pas besoin d'avoir la Bible, mais il peut crier à Dieu. Et combien d'entre vous, vous avez crié à Dieu? Et pas nécessairement parce que vous aviez une Bible entre les mains ou que vous aviez lu dans la Bible, mais vous étiez dans des circonstances extrêmement difficiles, peut-être la mort dans l'âme, peut-être des épreuves, quelque chose de semblable, et vous avez crié à Dieu. Et là, Dieu a entendu votre prière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu. Et il a répondu comment souvent? Bien là, il a emmené quelqu'un sur votre chemin. Il a emmené quelqu'un à vous parler de Jésus. Il vous a emmené quelqu'un à vous dire, regarde, bien, la Bible, elle est là, c'est le livre de Dieu. Par la Bible, tu peux rencontrer Dieu. Et là, vous avez commencé à lire la Bible. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est intervenu, a travaillé dans votre cœur. Vous n'avez rien vu de ça, mais ça travaillait en dedans. Hein? Et là, vous aviez des questions. Puis là, vous avez posé vos questions. Puis là, vous aviez encore plus de questions. Puis à un moment donné, vous êtes vu vous-même devant Dieu. Et vous dites, wow, j'ai un problème. Hey, je suis pécheur. Et là, vous avez été convaincu de pécher. Puis là, vous avez réalisé que vous aviez besoin de Jésus. Voyez comment que le processus s'est enclenché, mais ça a pu commencer avec la prière. Donc, c'est pas que le moyen premier doit commencer là, après ça, on va au deuxième, après ça, on va au troisième, après ça, on va au quatrième, et ainsi de suite. Non, non, non. C'est juste les moyens que Dieu a à sa disposition pour qu'on puisse entendre sa voix. Combien d'entre vous ont vu le film War Room? Oui. Eh, mes amis, hein? N'est-ce pas un film qui représente bien que la prière, c'est le moyen le plus simple, le plus accessible et le plus efficace pour rencontrer Dieu, pour demander son assistance, sa grâce, son intervention et sa direction? N'est-ce pas vrai? Combien d'entre vous ont été influencés par ce film? Stimulés dans votre foi, dans votre désir de prier encore davantage et de voir Dieu à l'œuvre. Patty. T'as fait ça, toi, t'as prié. N'est-ce pas? Oui. Parce que Patty, tu m'as conté ça un peu, là, comment Dieu, tout récemment, a fait quelque chose. Et là, je veux que tu le partages. Là, c'est là, là. Vas-y, Gaétan. Et Patty, ça a fait un an tout récemment que tu étais baptisé, n'est-ce pas? 19 avril l'an passé.
Oui, c'est ça.
Exact.
Tout s'est enchaîné comme ça. Et à un moment donné, je devais suivre Dieu. C'était comme plus fort que moi. Puis même si tu dis, oh, je le suis, puis je le suis. Et, écoute, ça vient réellement de Dieu. C'est pas une parole, ça vient de Dieu. Et c'est puissant. C'est plus qu'une parole, c'est dans ton cœur. Et
Patty, t'as entendu la voix de Jésus?
Oui.
Il t'a parlé, c'était clair? Oui. Il est vivant, hein?
Oui.
Puis ça a fait une différence.
Une grosse différence parce que, à partir de ce moment-là, je savais que je marchais pas selon la volonté de Dieu. Et je veux suivre Dieu, puis je marche pas.
Alors, t'as voulu mettre ça?
Il a fallu que j'ai mis dans les mains de Dieu. Et j'ai mis Dieu en priorité.
Voilà.
Même après plus de 20 ans, j'ai dit à Gaétan, écoute, on va aller réfléchir parce que Dieu est la priorité. Il a accepté et tout, et ça m'a pris 6 mois que ils m'ont téléphoné énormément pour me dire, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cœur, mais je dois te faire la grande demande.
Et il l'a fait au téléphone, hein? Mais, c'était le désir de Patty. Elle voulait pas attendre. Elle a dit, vas-y, mon grand, fallait. Elle était à Montréal, c'est ça? Oui. C'est bon. Alors, ce qui s'est passé, en fait, parce que je... Oui, exactement. Et je vais aller résumer, Patty, pour que ça soit enregistré, OK? Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci. Je pourrais lui donner la parole. Puis, Alors, après 20 ans de vie commune, et l'année passée, quand Patty s'est fait baptiser, naturellement, moi, je l'avais rencontrée pour parler avec elle de sa situation, justement, conjugale, étant donné son désir de vouloir se faire baptiser. Alors, on a parlé de ça honnêtement, franchement, et on a mis ça devant le Seigneur. Parce que j'ai encouragé Patty à mettre Dieu en premier dans sa vie. Puis j'ai dit, Patty, si tu vas te faire baptiser, est-ce que Dieu va être en premier dans ta vie? Et là, on a regardé ce que ça voulait dire dans sa situation conjugale et ainsi de suite. Mais là, son désir, c'était, oui, je veux que Dieu soit en premier dans ma vie. OK. Fait que là, j'ai dit, mais Gaétan, il est pas au Seigneur encore. Là, est-ce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Il faudrait que le Seigneur puisse visiter Gaétan. Elle a dit, OK. Elle dit, c'est sûr que c'est le désir de mon cœur. Fait qu'elle dit, veux-tu y parler du Seigneur? Ben, je dis oui, ça va me faire plaisir d'y parler. Mais là, elle dit, vas-y, parle-y, là, tu vas y parler là, là. Mais là, il était pas là, Gaétan. Il était à la maison. Ou au travail, je sais pas trop, là, à l'époque. Et puis, j'ai dit, là, là. Là, j'étais dans mon bureau avec Patty en haut. Elle dit, oui, là, là. Ben, j'ai dit, là, comme elle dit, gars, j'ai mon téléphone, là. Elle dit, tu vas y parler. Elle dit, je vais t'enregistrer. Première fois de ma vie que j'ai une situation comme ça. Là, je vais dans mon fort intérieur, la prière, mon Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est correct si je parle comme ça? Oui, vas-y, OK, let's go. Alors là, je m'adresse à un téléphone, Gaétan, et là, je parle à Gaétan, et là, je lui parle du salut, je lui parle de l'importance de venir à Jésus et tout ça. Alors là, après, Patty m'appelle, je sais pas si Gaétan est au courant, là, tu vas le savoir, Gaétan, mais Patty m'appelle, elle dit, ouais, as-tu parlé à Gaétan? Elle dit, non, j'ai pas parlé, as-tu vu le petit vidéo? Elle dit, ouais, j'y ai montré tout ça. Mais là, elle dit, je voudrais que tu y parles, OK, mais là, je vais y parler. Non, pas tout de suite, attends, là, il est dehors, puis tout ça, puis elle dit, rappelle. Excuse Gaétan, là, tu sais, Patty, hein, tu sais. Fait que, je dis, OK, il m'a rappelé, fait que là, je rappelle, fait que là, Gaétan! Benoît est au téléphone, il veut te parler. Fait que là, OK, là, Gaétan, il vient au téléphone. Ça, c'est correct, hein, c'est dans le Seigneur, c'est tout fait, c'est tout baigné dans la prière, sanctifié. Et puis, fait que là, je parle avec Gaétan, fait que Gaétan, il dit, écoute, il dit, bon, Benoît, je veux pas faire ça sur un téléphone. Ben oui, je te comprends très bien. Il dit, j'aimerais ça te rencontrer. OK, on prend rendez-vous, tout ça. Et là, j'ai eu l'occasion de parler avec Gaétan. Et Gaétan a compris le salut par la grâce de Dieu, a prié avec moi, il a demandé au Seigneur d'être son sauveur et qui pardonne ses péchés et qui vienne dans sa vie. Et puis là, un an plus tard, bien là, on est là. C'est merveilleux, hein? Mais ce que j'ai apprécié beaucoup de Patty, quand elle m'a parlé, elle a dit, là, le Seigneur, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, il a parlé dans mon cœur, il m'a parlé, il m'a convaincu, puis là, c'était qu'il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je mette le Seigneur en premier dans ma vie, puis il fallait que je bouge dans ce sens-là, je ne savais pas où ça allait me mener, mais je l'ai fait pour le Seigneur, puis là, il m'a montré qu'il fallait que je parte, puis que là, je dis à Gaétan, regarde, là, je vais aller réfléchir, on va réfléchir avec un autre bord, puis tout ça, puis tout ça, puis tout ça, puis elle a mis ça dans la prière, puis elle était avec une amie à Montréal et tout ça. Et le Seigneur l'a rencontré, elle, de son côté, et il l'a rencontré, lui, de son côté. Mais elle avait mis le Seigneur en premier. Puis là, elle a dit, ça passe ou ça casse, coûte que coûte. Seigneur, là, c'est toi en premier. Et là, ils vont se marier au mois de juillet. Merveilleux, hein? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Autrement dit, quand on fait appel à lui, quand on prie, quand on crie à lui avec un cœur totalement, tu sais que, tu sais, dans le fond, là, souvent, c'est que on prie, mais avec un agenda. Hein? Avez-vous déjà fait ça, vous autres? Vous priez avec un agenda? C'est-à-dire, vous priez avec votre agenda? C'est-à-dire, vous priez dans le sens de dire, Dieu, voici mes projets, bénis-les. Dieu, voici ce que je pense, sois du même bord que moi. T'sais? Voici, Seigneur, ce que je veux faire, s'il vous plaît, permets à ce que tout aille dans ce sens-là. Puis là, quand ça va pas dans ce sens-là, là, on dit, mais t'es où? Tu fais quoi? Comment se fait que? Puis je comprends plus. Puis écoutez, j'étais là, moi aussi, là, je l'ai fait, et je suis certain que je peux le faire encore. Hein? Et des fois, il y a des moments où on est frustré, on n'est pas content, ça va pas dans le sens que ça va, que ça devrait aller, la vie est pas juste, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on réagit, puis on est en colère en dedans de nous autres. OK? Je dirais, ceci, c'est correct. En autant qu'on continue à interagir avec Dieu. Puis on continue à répandre notre cœur devant lui. Puis là, dit, Seigneur, c'est quoi qui se passe, là? C'est-tu moi qui ai un problème ou ben non, c'est quoi qui se passe? C'est quoi que tu veux que je comprenne dans tout ce qui est en train d'arriver? Moi, là, puis là, on y envoie tout notre plan, tout notre scénario, toutes nos frustrations, et on y rouvre notre cœur. Mais on le fait dans la prière. Puis là, on dit, Seigneur, si tu as de quoi me montrer, là, rajoutez ça, là. À la fin d'avoir fait tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez... Seigneur, si tu as de quoi me montrer, montre-moi-le. Montre-moi-le. Est-ce qu'il y en a qui vont faire ça? Hein? Seigneur, montre-moi-le. Montre-moi-le. Qu'est-ce que tu essaies de me montrer? Est-ce quelque chose que je vois pas? Est-ce quelque chose que je comprends pas? Seigneur, parle-moi. Et vous allez voir comment Dieu est fidèle. Il attend souvent juste notre, regarde, là, j'en ai assez. Je ferme boutique, Seigneur. J'arrête de me battre. J'arrête de lutter. J'arrête d'essayer de convaincre de quoi que ce soit. J'arrête de cogner à une porte, à une autre. Et là, maintenant, je viens à toi tel que je suis et je lâche prise. Oui, je lâche prise. Seigneur, agis. Fais ce que tu as à faire. Montre-moi. Et s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne te glorifie pas, si c'est ma façon de penser qui est pas correcte, si j'ai pris une décision qui est pas mauvaise, s'il y a quoi que ce soit avec lequel je suis en train de me boquer à, Seigneur, montre-moi-le. Et vous allez voir, le Seigneur, il va vous montrer. Parce que le Seigneur, il veut que vous entendiez sa voix. Il veut vous conduire. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et vous savez, quand on suit Jésus, on est en train de suivre la bonne personne. On s'en va dans la bonne direction parce que Jésus s'en va toujours dans la bonne direction. Le problème qu'on a, c'est que souvent on a de la difficulté à entendre sa voix, où on n'est pas sûr, où on pense que Dieu veut ceci ou que Dieu veut cela, ou que Dieu a emmené telle circonstance ou telle affaire, et finalement, c'était pas lui. Et là, on se retrouve dans un cul-de-sac, on se retrouve face à un mur, puis on comprend pas comment se fait que, Seigneur, moi j'ai, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je vous le dis, le Seigneur, il veut nous rencontrer, il veut nous faire entendre sa voix. Jésus, il nous aime. Il veut pas là nous laisser dans un coin désertique et en train de sécher au soleil là, tu sais, pour que là je vais mourir. Seigneur, aide-moi sinon je vais mourir. Si on est en train de sécher de même, c'est parce que c'est nous qui sommes dans le désert, qui avons été dans le désert. Dieu veut pas qu'on soit là en train de sécher puis mourir. Amen. Est-ce quelqu'un d'autre qui a eu une réponse à la prière? Oui, oui, je le sais, il y en a une. Ah, vas-tu le dire ce matin? Ah, vas-tu se lever ce matin pour le dire? Il y a une femme ce matin qui est ici qui a eu une réponse à la prière. Qu'elle se lève maintenant, je lui donne la chance de le faire. Ah, vous êtes...
J'ai perdu mon fils.
Vous aviez perdu votre fils?
Ça faisait 15 ans, moi, qu'il m'avait pas appelé.
OK. Il était pas décédé, c'est juste que vous aviez plus de contact avec lui depuis 15 ans. OK.
À un moment donné, j'étais chez nous, puis là, ben, j'étais pas chrétienne, rien de ça. Je parlais, j'ai dit, là, mon Dieu, moi, je te lis, je te donne paix. J'ai dit, je prends mon problème, puis je vais les mettre dans les mains.
Amen.
De quoi? Ben, je lis mon fils.
Amen. 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 Fantastique. Et je suis certain qu'il y aurait des témoignages encore et encore ce matin, si je donnerais l'occasion à vous tous de partager. Mais Dieu, il est vivant. Dieu, il est agissant. Dieu, il nous entend. Dieu, il nous aime. Dieu, il veut intervenir dans nos vies. Dieu, il va faire bien plus que ce que nous, on le laisse faire. On est souvent, malheureusement, le problème où on est dans ses pattes, où on n'est pas en train de le chercher sa face comme on devrait le chercher. Et c'est ça, souvent, le problème.
Moi, chez nous, des fois, je dis, mon Dieu, dites-moi-lui ce que c'est que vous voulez que je fasse pour vous. Dites-moi-lui.
Oui.
Je vais le faire. Chez nous, ça capte à moi ou quoi que ce soit. Moi, je suis prêt. Du même bord que vous.
Amen. Amen. Et il va répondre. Il va répondre. Comme souvent. Attache ta tuque. Patty. Oui.
Juste une chose.
Un petit peu. Oui, c'est vrai.
Oui, et...
Un an et demi que Nicolas était décédé.
Et il était à notre mariage,
mm-hmm.
Ça s'est enchaîné.
Oui.
Mais la chose que j'ai arrêté de dire, pourquoi il ne mérite pas, il ne mérite rien, la journée que j'ai dit, mon fils, je te le donne, c'est ton enfant, tu me dois rien, je te dois tout. C'est de là, ça s'enchaîne.
OK. Et tu sais, Patty, Dieu, il comprend. Tout comme chacun d'entre nous, on a nos combats, on a nos difficultés, on a des choses avec lesquelles on lutte, mais Dieu, il comprend. Dieu nous entend. Mais c'est vrai qu'il veut nous emmener là, à un moment donné, où on dit, on lâche prise. Seigneur, garde, je te remets mon problème, je te remets ma tristesse, je te remets mon découragement, je te remets le défi qui est trop grand devant moi, je te remets, Seigneur, mon cœur, ma peine et tout ça. Et Dieu, il veut nous rencontrer dans une telle circonstance. Gaétan, là, je perds le contrôle. Allez, let's go. C'est plus moi qui enseigne ce matin. Gaétan, vas-y, je te donne la parole.
fait un rêve. Le cœur demande à Dieu, demande à Dieu de m'aider, de m'enlever la colère et l'agressivité.
T'enlever la colère et l'agressivité? À cause de la perte de ton gars, oui. T'avais de la peine, hein, dans ton cœur. Tu primais? OK.
Je me demandais de m'aider dans mon cœur, d'être moins agressif et moins en colère parce que j'en voulais. J'ai tellement fini pour mon fils cette hiver. Je pense que j'ai peut-être les cartes un peu. Ça marche pas dans mon cœur.
Exactement.
Il faut dire que j'ai demandé de m'aider la colère et l'agressivité et ça fonctionne vraiment bien.
Gloire à Dieu. Et ça me fait penser aussi, je pense que c'est important de se rappeler parce que je me rappelle, Patty était très inquiète parce qu'elle se disait, si Dieu épargne pas Nicolas, Gaétan, lui, il va rien vouloir savoir du Seigneur. Lui, pour lui, ça va fermer la porte à double verrou. Impossible, il n'y a plus rien. Gaétan, il sera pas capable de l'accepter. Et vous voyez, ça, c'était ce qu'on pensait. Mais Dieu, lui, savait qu'à travers une telle épreuve, il allait quand même rencontrer Gaétan. Et il y avait quelque chose de spécial pour eux deux ensemble. Et là, ils vont, dans le Seigneur, se marier. Vous voyez, c'est nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Nos préoccupations ne sont pas celles de Dieu. Et c'est ça qu'on a de la misère des fois quand on interagit avec Dieu. C'est qu'on y amène toutes nos affaires, puis là, on voudrait que ça se règle de telle façon, telle étape, telle personne fasse telle chose, qu'il arrive telle affaire, qui... Et sinon, Tu sais, comme moi, quand il y en a qui disent, « Ah, si Céline Dion viendrait au Seigneur, le Québec se convertirait. Si le Québec se convertit parce que Céline Dion se convertit, on a un problème. C'est pas la bonne raison pour se convertir. Mais je comprends très bien, ça serait quelque chose d'encourageant. J'aimerais ça qu'elle soit membre à notre église aussi. Tout à coup, l'assistance changerait. Wow, ça grandit donc bien vite, c'est. J'ai tout un bon prédicateur. Connaissez l'histoire de l'éléphant et la souris? T'as bien chum ensemble, les deux? Là, j'ai perdu le contrôle, Joël, complètement. Connaissez pas l'histoire de l'éléphant et la souris? Revenez la semaine prochaine. Non, mais tant qu'à être là, hein? L'éléphant et la souris sont ensemble, sont bien chums. Ils étaient dans la même église, tous les deux. Puis, à un moment donné, ils s'en vont ensemble, tu sais. Puis là, ils traversent un pont. Puis là, l'autre bord, rendu l'autre bord, la souris donne un petit coup de coude à l'éléphant, elle le regarde. Hey, on t'a lâché, qu'est-ce que ce pont-là? Ça s'en vient? Hein, la souris dit, on l'a shaké le pont, okay. Bon, pas problème d'image de soi. Tu sais, parfois, quand on va dans la prière, justement, on a l'impression que c'est nous autres qui fait la différence. Hein. On prie, puis là, on a prié, puis le Seigneur a répondu à nos prières. Dieu, moi, il entend mes prières. Puis là, le Seigneur, il regarde, il nous voit un petit peu comme la petite souris, tu sais, en disant, ta prière a fait une grosse différence. Tu sais, Dieu est gracieux quand même, hein? Il est gracieux de nous inviter à prier, puis à faire partie de son intervention, puis que l'impression puisse se réjouir et dire, Seigneur, tu as fait un miracle, tu as intervenu, tu as fait quelque chose. Et je sais qu'il y a d'autres histoires ce matin, mais je ne donnerai pas l'occasion d'aller plus loin parce que je pourrais pas continuer, mais je sais que Dieu est vivant présentement, il agit dans l'Église, c'est encourageant, j'aime tellement ça. Nous, à l'équipe pastorale, on aime tellement ça, entendre quand on voit que des choses qui viennent d'arriver, c'est des réponses à la prière, c'est des réponses à s'être tourné vers le Seigneur. Puis là, on est là, on a dit, hey, on n'a rien fait là-dedans, nous autres. On n'a rien fait. Mais Dieu a emmené une personne, Dieu a intervenu dans telle circonstance, dans telle situation, et toute la gloire est à Dieu. Puis là, vous savez, Dieu, lui, il a tout le catalogue de moyens dans lesquels il peut se manifester, et ça, c'est fantastique. Cinquième moyen, on est rendu là. Cinquième moyen, c'est quoi? Il y en a neuf. Le cinquième que j'ai mis, c'est l'Église. Alors, l'Église, c'est le moyen le plus diversifié et le plus dynamique dans le sens vivant par lequel Dieu interagit avec son peuple et le monde pour se faire connaître. Et on a un petit peu un exemple de ce matin avec comment Dieu intervient dans la vie des uns et des autres, comment Dieu peut se servir de nous les uns et les autres pour faire entendre sa voix, pour nous pour attirer notre attention, pour nous emmener à aller dans la direction qu'on a besoin d'aller, prendre une décision qu'on a besoin de prendre, se tourner vers le Seigneur et ainsi de suite. Alors, le Seigneur utilise son Église, qui est l'Ecclésia ou la communauté des croyants, pour justement faire entendre sa voix. Par exemple, Jésus dit dans Jean 13, 14, 15, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » À ceci quoi? Tous connaîtront. C'est fort ici, là, ce que Jésus est en train de dire. Autrement dit, Jésus va faire entendre sa voix, il va communiquer avec les gens, il va parler aux gens. Comment? Par notre amour les uns les autres. À tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur véhicule que la qualité de nos relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Lorsqu'on commence à laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies et nous donner de l'amour les uns pour les autres et que cet amour-là vient de Dieu, qu'elle est pas avec un intérêt personnel, qu'elle est donnée d'une façon libre et entière, avec un cœur libre et entier, avec aucune attente en retour, mais un amour-là qui vient de Dieu et que là, on est en train de le manifester les uns vers les autres. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des nouveaux avec nous ce matin, mais une chose qu'on entend souvent, que les nouveaux, quand ils viennent, ils vous regardent, ils vous observent. Vous savez ça? Ils vous observent. Même moi, je me rappelle d'une personne qui est venue me voir, et j'étais à l'université, j'étais un étudiant ici à Trois-Rivières, justement, et puis elle est venue me voir un jour, c'était dans une conférence, elle me dit, « Je suis venu au Seigneur, puis c'est un peu grâce à toi. » Je la connais même pas. Je dis, ah oui, comment ça? Au début, c'est pas ça qu'elle a dit. Elle dit, je te connais, mais toi, tu me connais pas. OK. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Puis elle dit, tu as eu un rôle à jouer dans ma vie. OK, c'est quoi ça veut dire? Là, tu sais, j'étais un peu appréhensif. Mais là, c'est là qu'elle a rajouté en disant, quand j'étais à l'université, j'étais chrétien, je témoignais. Elle avait des amis, je témoignais à ses amis, et elle m'a observé pendant toute une année que j'étais à l'université. Puis elle a dit, ton témoignage m'a influencé positivement. Puis elle a dit, si je suis au Seigneur aujourd'hui, c'est un peu aussi grâce à toi. Alors, je sais que moi, j'ai aucun rôle là-dedans, parce que si j'avais un témoignage, parce que Jésus était vivant dans ma vie. Parce que de moi-même, j'en ai pas de témoignage. J'ai seulement un témoignage à la mesure que Jésus peut s'exprimer librement à travers moi, et je sais que toute la gloire lui revient. Mais vous savez, vous avez un témoignage, vous en avez un sous vos voisins, et vous en avez un ici, vous en rendez même pas compte, des gens viennent, puis ils vous regardent, ils vous voient. Si vous allez vers eux, puis vous les serrez avec une joie dans votre cœur, puis c'est sincère, puis que là vous les regardez, puis vous les saluez, vous leur dites bonjour, vous vous introduisez à eux, vous les aimez, de cette façon-là, vous savez, ça a un impact. Des fois, une parole d'encouragement peut faire toute une différence dans la vie de quelqu'un. Mais même des fois, quand vous n'allez même pas vers quelqu'un, juste votre présence, juste qui vous êtes, si vous êtes joyeux, si vous avez un sourire sur votre visage, pas artificiel, mais un sourire parce que le Seigneur vous a béni, et il a fait quelque chose en vous. Parfois, on vient, on est triste, ça m'arrive moi aussi. Parfois, je viens des dimanches matins, j'ai même pas envie de prêcher. Puis là, le Seigneur, faut que tu fasses de quoi? Faut que tu m'aides, faut que tu interviennes, parce que là, émotionnellement, intérieurement, moi, je serais n'importe où, mais pas ici ce matin. Ça me tente vraiment pas. Tu sais ce qui se passe dans ma vie, puis là, ça me tente pas ce matin de prêcher. Et là, je demande à Dieu son aide, et qu'est-ce qu'il fait? C'est mes meilleurs dimanches. Comme un matin. Non, c'est pas vrai. Non, un matin, c'était pas comme ça. Mais ça m'arrive de temps en temps. Autrement dit, ça nous a... Mais on peut être un témoignage simplement comme ça. Et les gens, quand ils viennent de même, puis ils disent, les gens sont comme chaleureux ici. Les gens, ils se parlent entre eux. Les gens sont contents d'être là. Vous voyez, c'est toutes des petites choses anodines. Mais c'est un peu ce que Jésus est en train de dire, que comme Église, on peut faire entendre sa voix. On peut être un instrument de ses mains. 1 Timothée 3,15 dit aussi ceci sur l'Église. Il parle, c'est Paul qui parle à Timothée, mais il dit, « Si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, en tenant compte des enseignements qu'il vient de lui donner. » Alors, la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'Église, elle a tout un rôle ici à jouer en ce qui concerne l'Évangile et le fait de maintenir cet Évangile-là intègre ou intégral. Et Éphésiens 4, 11 et 15, où l'on parle des dons, que Dieu utilise par les dons, des dons d'hommes, tout comme des dons spirituels. Mais ici, ça dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pourquoi? Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Voyez, c'est à travers l'exercice du corps de l'Église et des dons spirituels qui sont en train d'être exercés. Donc, si on est à l'écoute les uns des autres et si on s'accueille les uns les autres et on accueille les dons que Dieu a donnés, les leaders que Dieu a mis en place, naturellement, je comprends que parfois les leaders, on peut être malheureusement pas en train de refléter la personne de Dieu et ça, c'est triste quand ça arrive. Mais en règle générale, ici pour Jésus, ça fait partie de son plan et c'est dans le contexte de l'Église locale. Et là, il dit que grâce à ça, on va grandir, on va s'édifier. Et on va entendre naturellement la voix de Jésus. Et il y a des dons spirituels, et l'exercice des dons spirituels dans une église fait aussi partie de comment Dieu parle aujourd'hui. 6e, les interventions exceptionnelles, comme dans Actes 11, 5 à 10. Et ça ici, c'est le moyen le plus surprenant et le plus inattendu par lequel Dieu se fait connaître parfois à certaines personne. Et là, je vais vous lire Actes 11, 5 à 10. Pierre dit, « J'étais dans la ville de Jaffa et je priais. » Vous voyez, il était en train de prier, chercher la face de Dieu. « Lorsque, en extase, j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait et s'abaissait du ciel et venait jusqu'à moi. » En l'examinant avec attention, je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Ça dit pas ici si la voix était audible ou pas, mais c'est pas important. Il l'a entendu qu'avec cette image-là, il y avait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ou d'impur n'est entré dans ma bouche. » Voyez-vous ici comment que le Seigneur est en train de nous montrer qu'on peut lutter même avec lui? Et pour la seconde fois, du ciel, la voix reprit ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela se produisit jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Voyez, pour Pierre, lui, ça lui prend toujours 3 fois. 3 fois pour le convaincre. Mais une chose est sûre, ça a été une intervention exceptionnelle. Pierre s'y attendait pas. C'est pas quelque chose qu'il a eu à tous les jours. C'est pas quelque chose qu'il a recherché même à tous les jours. Et c'est même pas quelque chose qu'il a demandé. Mais c'est Dieu qui a décidé de le faire. Vous vous rappelez récemment le jeune homme de la Mauritanie qui est venu chez nous? Qui a donné un petit témoignage ici quand Jocelyn prêchait. Rappelez-vous du jeune homme, il s'appelait... Ah, j'ai pas son nom. Hein? OK, il ne faut pas le nommer, hein? Faut-tu le nommer, c'est correct? Hussein. Comment est-ce qu'il s'est converti, Hussein? Vous rappelez-vous? Il a dit qu'il était en contact avec beaucoup de chrétiens parce qu'il était parti de la Mauritanie, il s'est allé aux États-Unis, puis là, finalement, il a rencontré des chrétiens. Ses parents, pourtant, lui avaient dit, faut pas que tu deviennes chrétien. Mais là, finalement, il était influencé par le témoignage, hein, par le témoignage des chrétiens qui étaient gentils envers lui, aimants, qui ont voulu lui rendre service, s'occuper de lui. Et là, à un moment donné, il a commencé à s'intéresser. Puis là, à un moment donné, il a commencé à cheminer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à chercher dans les Écritures, dans la Bible. Puis là, il s'est accroché à quoi? À la Trinité. Hein? C'est quoi ça, cette affaire-là, la Trinité? Pour lui, c'était impossible, impensable. Ça fait pas, c'est pas logique, ça marche pas, ça rentre pas. Puis là, il a essayé. Il y en a qui ont essayé de lui expliquer ça. Puis plus il a essayé de l'expliquer, plus il était confondu. Ça fonctionnait pas. Donc, pour lui, la Bible, ça ne fonctionnait pas. Et Jésus le savait. Il n'aurait pas pu venir à Christ seulement à travers la Bible. En tout cas, selon son témoignage, il faut en tenir compte. Parce qu'il était bloqué. Et la doctrine de la Trinité, entre autres, était quelque chose que lui, ça ne passait pas. Il avait beau essayer de tourner ça toutes les bords, d'avoir toutes les explications possibles, ça ne passait pas. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous rappelez-vous? Une dame lui a donné un conseil. Elle était musulmane, converti au christianisme. Et elle lui a donné un conseil qui était... Souvenez-vous? Vous n'avez pas écouté? Elle lui a simplement dit, ben, demande à Dieu de se révéler à toi. Tout simplement ce qu'elle lui a dit. Parce qu'elle l'avait vécu comme ça, elle. Demande à Dieu de se révéler à toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le moment où il a demandé ça, dans la nuit, il a eu un songe. Vous souvenez-vous le songe qu'il a eu? Le songe, étiez-vous là? Le songe n'était pas compliqué. À un moment donné, il a vu une grande foule, et pour lui, c'était clair, cette grande foule-là s'en allait dans la mauvaise direction parce que ça criait, puis ça s'en allait vers la perdition. Et à un moment donné, il a vu une autre foule. Et cette foule-là s'en allait, c'était clair, dans la bonne direction, par leur façon d'être, leur joie, leur paix. Et qu'est-ce qu'il a vu à un moment donné? Il a vu quelqu'un assis sur un trône avec une couronne. Et pour lui, il savait que c'était, et là, en hébreu, pas en hébreu, mais en arabe, Isa. Je l'ai écrit, Isa. Quelque chose de même. Ou encore, Aïssa. Isa, c'est quoi, Isa? C'est ça. Isa, c'est Jésus. Et Aïssa, c'est le Messie. Et pour lui, il disait, c'est clair, il dit, c'est impossible que ce soit un homme, c'est impossible que Mahomet puisse s'asseoir sur un trône, avoir une couronne sur lui, puis inviter les gens à venir vers lui, puis là, il m'invitait à venir vers lui. C'était impossible, c'était seulement Jésus. Jésus seul pouvait faire ça. Et il s'est converti. Il était convaincu que Jésus était Aïssa, le Messie promis. Voyez, intervention exceptionnelle. Est-ce qu'on va évangéliser comme ça, à demander à tout le monde qu'il y ait une vision de Dieu? Non, c'est pas ça. C'est pas ça le point. Le point, par contre, c'est que Dieu peut utiliser un moyen surprenant et inattendu comme une intervention exceptionnelle pour se révéler. J'avance. Les circonstances. Alors ça, c'est les circonstances dans lesquelles Dieu intervient afin de gouverner les affaires de ce monde et d'influencer les nôtres. Et ça, c'est le moyen le plus terrestre et le plus matériel par lequel Dieu fait connaître sa volonté aux hommes. Et je pense que c'est quelque chose que plusieurs d'entre vous avaient déjà vécu. Dans Jean 5, 17, Jésus dit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » Et c'est ça qu'il est en train de dire. Et on voit que Dieu intervenait dans les circonstances des hommes en faisant des miracles. Donc, une intervention exceptionnelle. Mais l'idée ici, c'est que Dieu travaille tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures par jour. Puis Jésus, moi aussi je travaille. C'est pour ça que même le jour du sabbat, il se sentait à l'aise de travailler. Dans Deutéronome 8, 2 et le verset 16, « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait » faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de quoi? De t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Donc, Dieu est intervenu dans les circonstances. Les circonstances sont devenues pour Dieu une façon par laquelle il est en train de faire entendre sa voix, de se révéler et en même temps de révéler le cœur de son peuple. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Donc, Dieu avait un programme et les circonstances pour lui étaient simplement le moyen par lequel il allait intervenir. Et donc, ça, ces moyens-là, ils sont très terrestres, très matériels. Et Dieu utilise parfois des circonstances dans nos vies pour nous emmener à prier, par exemple, ou à crier à lui, ou à se tourner vers la parole de Dieu, pour que là, Dieu nous parle, parce qu'on vit des circonstances très difficiles. Mais on se rend pas compte que, dans le fond, si Dieu les a permis, ces circonstances-là, c'est pour notre bien, comme il dit ici. C'est pour notre bien. Oui, ils sont difficiles. Oui, ça fait mal. Oui, c'est pas le fun. Oui, on veut s'en sortir. Mais en même temps, on va s'en sortir quand? On va s'en sortir au moment où on va dire, « OK, Seigneur, j'arrête, je lâche prise. Parle-moi. C'est quoi que tu as à me montrer? Montre-moi-le. » Et puis là, Dieu, il attend juste ça pour nous enseigner la leçon qu'il veut nous enseigner. Huitièmement, la création. Alors ici, c'est le moyen le plus naturel et le plus visible par lequel l'homme peut connaître Dieu, voir ses perfections invisibles, découvrir sa puissance éternelle et contempler sa divinité, comme on voit dans Romains 1, 19 et 20. Je le lirai pas, vous pouvez le lire si vous voulez, vous autres même. Et je vais aller au neuvième, qui est le dernier, la conscience. Donc, en tout homme, il y a une conscience. Et le texte dans Ecclésiaste parle aussi de la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, versets 10 et 11. Et Romains 2, 14 à 16 nous montre aussi que on a le sens du bien et du mal qui est déjà inscrit dans notre conscience. Donc, c'est de Dieu, ça. Dieu a déjà placé un mécanisme à l'intérieur de nous pour qu'on ait à interagir avec lui et qu'on pense à l'éternité, et qu'on a même un besoin de croire. Même un athée, il croit en quelque chose. On a tous, en tant qu'être humain, un besoin de croire en quelqu'un ou en quelque chose. Ça fait partie de nous. Donc, c'est quelque chose que déjà Dieu a placé en nous parce qu'il nous a créés à son image et Dieu veut s'en servir pour faire entendre sa voix, pour nous parler. Soit parce que notre conscience nous accuse, parce qu'il y a quelque chose qui va pas bien ou parce qu'il y a une insatisfaction dans notre cœur, il y a quelque chose qui nous trouble, il y a quelque chose qui va pas, puis on sait pas c'est quoi, on se tourne vers la gauche, on se tourne vers la droite, on essaye ceci, on essaye cela, mais ça reste qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose qui va pas, puis on le sait, mais on sait pas c'est quoi. Et là, on veut chercher plus, et là, par la grâce de Dieu, le Seigneur peut se révéler à nous. Donc, Ecclésiaste 3, 10, 11 et Romains 2, 14 à 16, et je finis simplement comme ceci. C'est le moyen, le plus inné et le plus intuitif, donc subjectif, par lequel Dieu communique aux hommes leur besoin de le connaître. Alors, voyez, 9 moyens, mais chacun de ces moyens joue un rôle que Dieu lui a assigné. Un rôle qui est plus ou moins prépondérant et percutant. Okay? Donc, tous les rôles n'ont pas la même importance, mais ils sont là. Il est vrai de dire et de croire que Dieu utilise une variété de moyens pour nous communiquer sa parole, son message et sa volonté. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est ceci. C'est encore plus vrai d'affirmer que tous ces moyens-là sont assujettis à un seul de ces moyens. Le moyen par excellence, qui est la Bible. Celui de la révélation spéciale, celui de la parole écrite et inspirée de Dieu. C'est tellement important, et c'est pour ça que je vais prendre le temps, dans la prochaine, on va regarder ensemble les pièges qu'il faut éviter. Il y a une règle d'or aussi qui est très importante, puis il y a des questions qu'on devrait se poser. Mais tout ça est relié à ce moyen-là qui est la révélation écrite de Dieu. Parce que ce moyen-là, il est, comme j'ai dit tantôt, c'est lui qui nous donne la foi dans laquelle on doit croire. C'est lui qui établit la doctrine ou l'enseignement qui est normatif, c'est-à-dire qui est pour tout le monde, peu importe où on est dans le monde, peu importe notre culture, peu importe d'où on vient. Vous voyez, c'est pas interprétatif dans le sens de « Ah, ben là, moi, si je dis « Dieu m'a montré telle chose, OK, mais ça m'appartient à moi. » Mais quand Dieu dit « Éloignez-vous de l'impudicité », Ça, ça appartient pas à une personne. Ça appartient à tout le monde. C'est applicable à tout le monde. Il n'y a pas d'exception là-dedans. Voyez? Donc, Dieu, c'est pas qu'il me dirige moi, mais il dirige tous ceux qui veulent le suivre, à ne pas vivre dans l'impudicité, par exemple, et ainsi de suite. Donc, la parole de Dieu demeure la référence, le moyen par excellence. Et on va voir justement comment aborder les autres à la lumière de celui-ci. On va prier ensemble. Peut-être je vais vous inviter à vous lever. Vous savez, ce qui est important ce matin, c'est que Dieu veut interagir avec chacun de nous. Et pendant le temps qu'on va prier ensemble maintenant, on va avoir un dernier chant. J'aimerais ça que vous puissiez vous placer aux pieds de Jésus. Qu'intérieurement, dans votre cœur, dis, Seigneur Jésus, je peux-tu venir à tes pieds ce matin? Est-ce que tu m'accueillerais ce matin, Jésus, si je me présente à toi tel que je suis? Tu connais, Seigneur, mon cœur. Tu connais mon histoire de vie. Tu connais, Seigneur, d'où je viens. Tu connais, Seigneur Jésus, les désirs profonds de mon cœur. Seigneur, est-ce que je t'aime? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui prend la première place dans ma vie? Peux-tu me le montrer, Seigneur, ce matin? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'empêchent d'entendre ta voix? Seigneur, je voudrais entendre ta voix. Je voudrais que tu aies la première place dans ma vie. Jésus, j'ai besoin de toi. C'est ce que je viens te demander ce matin. Rencontre-moi, Seigneur Jésus. Est-ce que je peux rester un moment à tes pieds? Est-ce que je pourrais te regarder, Jésus? Est-ce que tu pourrais mettre ta main sur mon cœur pour le réchauffer? Tu es vivant, Seigneur Jésus. Même si physiquement tu n'es pas ici, par ton esprit, par la foi, je voudrais m'approcher de toi. Est-ce que toi, Jésus, aussi, tu peux t'approcher de moi? Peux-tu venir vers moi, Seigneur, si moi j'ai la difficulté à aller vers toi? Peux-tu m'appeler par mon nom et m'inviter? M'inviter à te rencontrer, à passer du temps avec toi, à t'ouvrir mon cœur et te laisser, Seigneur Jésus, la première place dans ma vie. Seigneur, s'il y a quoi que ce soit qui m'empêche, montre-moi-le, s'il te plaît, Jésus. Entends le cri de mon cœur. Dispose mon cœur, Seigneur, pour que je désire entendre ta voix plus que n'importe quelle autre chose dans ma vie. Que ce soit toi, Jésus, qui vienne me rencontrer. Que ce soit toi, Jésus, qui réchauffe mon cœur. Que ce soit toi, Jésus, qui soit le sujet de joie dans mon cœur. Ce qui m'excite vraiment, ce qui me rend heureux, joyeux, rempli, satisfait. Rien d'autre, Seigneur Jésus. Mais que toi, tu puisses avoir la première place. Seigneur Jésus, c'est à toi que je viens ce matin. Je me place à tes pieds et je m'attends à toi, Seigneur. Rencontre-moi, s'il te plaît, dans ta grâce et parle-moi. Montre-moi, Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire dans ma vie. Montre-moi ce que tu veux enlever. Montre-moi ce que tu veux que je te donne. Seigneur, est-ce que je le tiens serré dans ma main? J'ai de la misère. Parce que toute ma vie, je me suis confié dans ça. Seigneur, est-ce que ma main pourrait s'ouvrir ce matin? Pourrais-tu m'aider à ouvrir ma main et laisser cette main s'ouvrir et que je puisse laisser, Seigneur, à toi prendre ce qui est dans ma main? Qu'est-ce que tu vas me donner à la place, Jésus? Qu'est-ce que tu vas me donner pour que je puisse avoir la paix dans mon cœur, la joie, me sentir en sécurité? Seigneur, montre-moi-le, que je puisse le recevoir, que ma main puisse l'accueillir, Jésus. Je viens à toi. Merci, Jésus. Amen.